J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme mordue subitement par le retour du passé. Elle était en train de travailler à son bureau quand le souvenir lui a sauté au visage. C'était il y a des années, ils s'aimaient encore, ils étaient bien dans ce jardin, il y avait un peu de vent et ils se souriaient. Mais c'était avant, bien avant, avant la fin, avant le divorce. Elle essaye de chasser cette image d'un bonheur ancien, cette image qui lui fait mal et lui rappelle que son bonheur, sa jeunesse aussi peut-être, tout ça est bien loin derrière elle. Elle essaye de chasser cette image et se remet au travail, mais c'est trop tard. La nostalgie l'a mordue. Elle l'a mordue d'autant plus qu'elle a voulu chasser cette image d'un bonheur ancien. Alors, constatant sa défaite, elle décide de tout changer. Elle ferme son ordi, elle ferme la porte de son bureau, elle se met en mode avion et elle replonge dans son souvenir. Elle l'accueille vraiment tout à fait, lui ouvrant grand les bras de sa mémoire. Ce jardin, c'était dans les Landes, mais c'était quand déjà? En quelle année précisément? Et leurs enfants? Ils avaient quel âge? Et pourquoi ils se souriaient comme ça? Est-ce qu'ils venaient de faire l'amour? Est-ce que c'était simplement que le soleil était revenu après des jours de nuages et de pluie? Et ce truc bizarre au fond du jardin, c'était quoi déjà? Un petit cabanon abandonné? Ah non, 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 c'était une vieille barque. Maintenant, elle se souvient mieux. Elle portait cette robe à fleurs et lui, cette chemise hawaïenne dont elle aimait tant se moquer. Et peu à peu, le souvenir se précise. Peu à peu, le passé redevient présent, dans des images, des sensations. Et alors, il n'y a plus de nostalgie. Parce qu'il n'y a de nostalgie que de ce qui n'est plus. Mais dans la mémoire revenue, dans la mémoire vivante, le passé n'est plus du passé, il redevient présent. Et on ne peut pas être nostalgique de ce qui est là, intact, dans la saveur du présent. Mais pour en arriver là, il faut connaître la méthode proustienne, savoir insister un peu dans la réminiscence, faire un effort de remémoration pour donner au passé sa chance de redevenir présent. Si on ne fait pas ça, si on ne sait pas accueillir le bon souvenir, on aura juste le temps d'être mordu par une nostalgie amère. Et au lieu de savoir se réjouir que cela ait été, on ne fera que regretter que cela ne soit plus. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une philosophe qui va nous parler de cette nostalgie qui nous mord et des manières de s'en défaire. Autrice tout récemment aux éditions Alary d'un très joli essai, aussi littéraire que philosophique, titré « Nos dernières fois » et justement sous-titré « Défier la nostalgie », Sophie Galabru est avec nous ce matin sous le soleil de Platon, et d'ailleurs c'est un peu celui de Yankelevitch et de Bergson aussi, et en sa compagnie, en leur compagnie donc, nous allons chercher non pas les remèdes à la mélancolie, mais les remèdes à la nostalgie.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Sophie Galabru.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ouais, ça va.
Pas trop nostalgique ce matin?
Non. Pas du tout.
Alors, j'ai entre les mains votre dernier essai. Donc, vous avez écrit auparavant « Faire famille, une philosophie des liens » aux éditions Alary. Vous avez écrit aussi un livre sur la colère, pour lequel j'avais voulu vous recevoir il y a des années, et puis ça ne s'était pas fait. Mmh. Et là, votre dernier livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très bien écrit, donc ça fait plaisir. Les philosophes qui savent écrire, c'est rare. Enfin, c'est assez rare. Et il est sous-titré « Défier la nostalgie ». Alors, qu'est-ce que vous pensez de la méthode de cette femme que j'ai évoquée dans mon petit intro, là, qui est, pour défier la nostalgie, au fond, de l'accepter vraiment et carrément de plonger dans le souvenir au lieu de vouloir l'éviter?
Oui, je crois qu'il vaut mieux céder à la tentation. Je crois que c'était Wilde qui disait ça, pour mieux peut-être s'en éloigner que d'essayer de la refouler ou de l'éviter. Donc je suis assez d'accord avec vous. Il faut plonger dans ce qui nous fait peur pour peut-être s'apercevoir que ce n'est pas si effrayant ou eh bien, gagner des frissons et vivre vraiment au passage.
Mais alors, quand vous écrivez « Défier la nostalgie », on pense à plein de choses et qu'on va retrouver dans votre livre. Il y a la mémoire, par exemple. Le goût du présent, je dis un peu toutes les pistes qu'on va rencontrer dans l'émission, la vie spirituelle dont vous parlez très bien, au fond dès qu'on est spirituel, il n'y a peut-être pas de dernière fois, on pourrait penser aussi à la notion de transmission, à la métaphysique, on va parler de tout ça, mais vous, qu'est-ce qui vous parle le plus ?
Je crois que c'était quelque chose qui vient peut-être un peu contredire cette présentation, ce petit récit sur cette femme. Moi, c'était la nostalgie du présent. Ouais. Alors, je sais que ça paraît étrange, mais d'ailleurs, Yankelevitch disait que c'était la matrice de la nostalgie, c'est d'avoir la nostalgie du présent, c'est-à-dire s'apercevoir que le temps est irréversible, que chaque instant qui vient à peine de passer est premier et dernier. Et donc, c'est ça qui crée, à mon avis, toute nostalgie, même la nostalgie après pour le passé lointain. C'est la nostalgie du tout juste passé qui, moi, qui me posait problème et qui gâchait mon présent, justement.
Mais est-ce que ça irait, votre maladie, jusqu'au point que vous soyez nostalgique au moment où vous vivez la chose, en vous projetant déjà dans le futur proche ?
Oui, ça m'est arrivé. Le livre s'ouvre comme ça, c'est-à-dire un moment de fête, d'amitié avec des êtres aimés. Et puis, au lieu de plonger, d'être attentive au moment, de plonger dans ce moment, je me décentre et je regarde la scène comme déjà en train de passer.
Oui.
Et donc c'est ça qui crée ma nostalgie, une forme de qui fracture la beauté de ce moment présent et me plonge. Oui, je suis déjà allée dans l'avenir en fait, je vais trop vite.
Alors le remède ?
Le remède, c'est quand même comme la femme dont vous parlez au tout début, c'est de plonger, de s'installer dans la durée, d'y plonger, d'arrêter de regarder en arrière dans le tout juste passé, dans le tout juste avenir. Il faut oser, à mon avis, être pleinement attentif à son présent, présent au présent en fait.
Ouais. Et d'ailleurs, je parlais de la méthode proustienne, parce que je vous avoue que je faisais un contresens avant de relire Proust récemment. Il m'avait semblé que la réminiscence, ça venait d'un coup, comme ça, tac ! Et que finalement, le passé revient dans une bulle de réminiscence, et que soudain, il est revenu. Mais en fait, pas du tout. Quand on lit la recherche, il faut un peu insister. Il faut faire un effort de remémoration. Et si on ne le fait pas, on est mordu par la nostalgie, parce que c'est très rapide, et ça s'en va aussi vite que c'est venu. Et dans ce cas, le passé heureux a juste le temps de nous mordre de façon désagréable. Mais ce que Proust propose, c'est de faire un effort de remémoration. Et ça, vous en parlez très bien aussi.
Oui, c'est vrai que chez Proust, le souvenir que j'en ai aussi, c'est quand même que les sensations physiques, spatiales, nous connectent au temps. C'est-à-dire qu'il suffit de buter contre le pavé de l'hôtel de Guermantes pour que le souvenir de la place Saint-Marc de Venise remonte, ou de manger cette petite madeleine, pour que ce souvenir d'un thé, d'un goûter chez sa tante Léonie remonte. Donc ce qui était merveilleux, je trouve, chez Proust, c'est le fait que des sensations ouvrent des failles temporelles et fassent remonter du passé.
Et finalement, votre livre porte moins sur la mort que sur l'irréversible.
Oui, absolument, puisque comme je le dis, on pourrait très bien être immortel que le problème demeure. C'est-à-dire que même immortel, le temps a la même structure irréversible. Et donc, on peut être immortel et nostalgique.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin, ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire.
Alors Sophie Galabru, je vous vois danser un petit peu là. Mmh. C'est la fin, le dernier jour du disco, ça vous inspire quoi ?
J'aime beaucoup cette chanson. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Mais j'adore les chanteurs, les compositeurs qui ont le don de parler de la nostalgie tout en étant aussi rythmé et joyeux.
Ouais.
J'adore ça.
C'est ce que vous voulez faire d'ailleurs un petit peu.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, vous avez fait un livre plus léger que le grave au fond.
Bah, le titre n'en a peut-être pas l'air, mais en effet, le livre se veut beaucoup plus léger que le titre. Ouais.
Ouais, mais il l'est. D'ailleurs, je vais rappeler que dans l'introduction, vous distinguez trois grands types de dernière fois.
Ouais.
D'abord, le premier type, c'est il y a celle que nous ne cherchons pas à provoquer, mais que nous nous sentons le devoir de préparer. Par exemple, on déménage, on dit adieu à un lieu, on fait un pot de départ, ça c'est le premier type. Puis, deuxième type, les dernières fois que nous ne voyons pas venir, que nous ne soupçonnons pas, et qui nous tombent dessus par effraction. Par exemple, la fin d'une histoire d'amour quand on se fait quitter, ou la mort d'un être cher imprévisible. Bien des vécus, écrivez-vous, ont été les derniers sans que nous puissions les saisir, donc on ne s'y prépare pas. Et troisième type, les dernières fois que nous recherchons comme un but salutaire, un point d'arrivée tant espéré. Par exemple, on veut quitter quelqu'un de toxique et on lui donne rendez-vous pour lui dire qu'on le reverra jamais, ou alors on veut arrêter une drogue ou de l'alcool et on dit c'est la dernière fois. Mmh. Et donc cette typologie, qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue existentiel ?
À vrai dire, peut-être que les dernières fois les plus lourdes ou les plus dures, c'est celles les centrales, c'est-à-dire celles qu'on ne voit pas venir. Moi, je crois vraiment que c'est celles-là qui sont les plus difficiles, parce que précisément, souvent, on a le fantasme. Après la sidération et la révolte face à la rupture ou la mort soudaine, on a souvent cette envie de remonter la chaîne des effets et des causes pour comprendre ce qui s'est passé, comment on aurait pu éventuellement dévier le cours du temps, la trajectoire du déterminisme ou du destin, selon le nom qu'on veut lui donner, et on se plaît à, c'est ce que décrit Brigitte Giraud dans son livre Vivre vite, hein, quand elle perd son compagnon d'un accident de moto.
Prix Goncourt,
qui est absolument merveilleux, elle remonte cette chaîne de causalité pour se demander comment elle aurait pu éviter l'accident, la tragédie, et je crois qu'on a tous ce fantasme-là, et en même temps, je ne suis pas sûre qu'il est toujours, je pense même qu'il serait impossible et insoutenable de savoir à l'avance le jour, la date et l'heure de celui qui va partir accidentellement. En revanche, c'est vrai que le petit privilège de la maladie, c'est en effet de donner l'occasion de parler, de ritualiser les dernières fois et de les préparer, je pense, un peu plus.
Et est-ce que vous pensez que c'est une marque de civilisation, quand même, de savoir ritualiser la dernière fois quand on peut ?
Bien sûr, oui, je pense que c'est très important de marquer par le rituel... de commémorer ce qu'on a vécu dans un lieu, que ce soit une entreprise, un lieu où on a travaillé, un lieu dans lequel on a vécu, ou un être cher avec lequel on a eu un lien, c'est important de dire que ce n'est pas parce que ça a eu lieu dans le temps que c'est absolument éphémère et absolument détruit, au contraire. Et c'est ce que disait Nietzsche, en fait. L'éternité, c'est le passé. Tout ce qui a eu lieu est éternel, pour toujours a eu lieu.
Alors ça, c'est un autre remède à la nostalgie, c'est de chercher le caractère d'éternité de tout ce qui a été.
Oui, voir, il y a deux sens de l'éternité. Il y a ce sens-là, quelque part nietzschéen, c'est l'ensemble de ce qui a été pour toujours. Ouais. Et puis il y a l'éternité comme sortie du temps, qu'on peut avoir dans des expériences comme lorsque je comprends une vérité et que j'ai un moment d'illumination, de compréhension profonde. Alors j'ai comme une sortie du temps, c'est-à-dire que c'est un présent pur qui m'extrait de la chaîne temporelle, parce que dans ce présent pur, j'ai compris quelque chose d'éternel. Ça peut être la grande joie, ça peut être la contemplation de la beauté.
Alors justement, vers la fin du livre, je ne pensais pas en parler dès maintenant, mais puisque vous le faites, j'y vais, la sortie du temps. Vous expliquez d'ailleurs, je vais faire une petite lecture de votre livre, que je vous lis, donc Sophie Galabru, à la fin du livre, « Nos dernières fois, défi de la nostalgie » aux éditions Alary, une troisième voix s'aperçoit encore. Sortir du temps, voilà, pour défier la nostalgie, sortir du temps. Et je vous lis, trois expériences nous le permettent, la joie, l'amour et la beauté. La joie d'être à l'instant, m'extrait de la chronologie, banalise les limites temporelles et le comptage angoissé. L'amour donne la sensation bien réelle de démultiplier les instants. Il confère une grâce qui s'enrichit de ce qu'elle donne. Donner son temps à qui l'on aime approfondit ou densifie notre durée. Celle-ci se nourrit du rythme de l'autre, de cette intrigue qu'il incarne et du sens qu'il y a à s'abandonner ainsi. Enfin, voir la beauté du présent, que l'on découvre souvent trop tard dans la nostalgie, est une autre voie vers l'éternité. Donc sortir du temps.
Oui, c'est une autre voie pour ne pas souffrir du temps, ne pas en pâtir. Mais donc c'est une voie particulière, mais qu'on ne peut pas forcément déclencher à tout moment. Il faut aussi se réconcilier, à mon avis, avec la durée, en s'y installant et en ne cherchant pas le survol. C'est ce que je disais en tout début d'émission. Ne pas chercher l'attitude de survol, l'attitude panoramique ou comptable, je l'appelle comme ça. Ouais. C'est-à-dire ne pas chercher à compter absolument les fois, comme si c'était des écus temporels absolument à thésauriser ou à garder, à ne pas gaspiller.
Mais c'est presque contradictoire, du coup, parce que vous écrivez un livre qui s'appelle « Nos dernières fois », donc on est lancé dans cette aventure comptable, et après vous dites « attention, c'était un piège ».
Vous avez complètement raison. La réalité du livre est finalement de dire « je ne cristallise pas tellement ». L'expression « nos dernières fois
».
En fait, bon,
c'est juste un titre.
Non, mais c'est vrai que l'expression, moi, m'a attirée, m'a séduite. Je trouve qu'elle a un certain charme. Mais en réalité, en travaillant ce livre, en l'écrivant, je me suis aperçue que c'était aussi le charme, un charme parfois un peu dramatisant ou lourd. C'est-à-dire que c'est aussi en comptant les premières ou les dernières qu'on se fait beaucoup de mal et qu'on a un rapport au temps assez cruel, je trouve.
Ouais, ouais.
Donc en fait, je dis, c'est une expression qui est parfois utile pour donner de la pour organiser sa vie, pour lui donner une cohérence, pour la raconter. C'est un terme scénaristique et romanesque, en fait, nos dernières fois. Par moments, ça donne de la beauté à la vie. Ça intensifie une relation ou des moments de se dire, tiens, ça sera peut-être la dernière fois, mais ça peut aussi largement donner une charge dramatique à la vie. Donc il n'est pas toujours utile de surinvestir le moment en se disant, c'est le dernier. D'ailleurs, Socrate, moi j'adore la scène du Phédon où il est en train de mourir, et il ne surinvestit pas cette dernière fois, il fait comme si de rien n'était, comme s'il allait toujours vivre, en fait. Il parle comme d'habitude avec ses amis.
C'est une magnifique question qui est tout à fait posée par votre livre, Sophie Galabru, nos dernières fois. D'un côté, on a la méthode Socrate, qui finalement vit son dernier instant comme il a vécu tous les autres, tellement il est lui-même, au fond, tellement il sait quoi faire de sa vie, bah, il continue à faire la même chose. Et puis, de l'autre côté, on a l'espèce de cliché, vivre chaque instant comme s'il était le dernier, notamment avec la conscience que c'est le dernier. Et là, vous citez Jean-Louis Trintignant, qui parle très bien de ça, et on a l'impression que vous allez lui donner raison, et c'est pour le tacler, in fine. On va parler de ça après avoir écouté Brigitte Fontaine.
De Platon. Charles Pépin sur France Inter.
La vraie nostalgie, c'est la nostalgie d'un endroit absolument quelconque où j'ai débuté comme professeur, par exemple, à l'avenue de la Gare, s'il y en a une, avec des boutiques quelconques, parce que j'y ai vécu quand j'étais jeune, où j'étais pas spécialement heureux, au contraire, je ne pensais qu'à revenir à Paris. C'est surtout donc quand, extérieurement, objectivement, il n'y a pas de raison de regretter, c'est à ce moment-là que le regret est incoercible. Et qu'il est pur, à l'état pur, métaphysique. Au moment où ce passé était le présent, il était morne, prosaïque, sans aucun charme. Donc c'est la temporalité à elle seule qui développe ce charme.
Nous sommes toujours sur France Inter, sous le soleil de Platon, avec Sophie Galabru. On vient d'écouter successivement Brigitte Fontaine et Yankelevitch. Sophie Galabru, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une émotion musicale forte ?
Oh, souvent tous les jours, parce que j'adore écouter de la musique. Je pense quand même que la musique classique me donne une émotion peut-être la plus forte par rapport à toutes les autres que je peux écouter.
Ouais, et Yankelevitch, c'est un peu de la musique aussi.
Ouais, bien sûr, il a une voix, tout ça a déjà été dit, il a une voix extrêmement musicale qui passe par plusieurs tonalités, de l'aigu au grave, avec un rythme, bien sûr.
Il dit quelque chose de très très fort, je trouve, qui est qu'on est nostalgique, non pas de ce qui a été bien ou génial, mais juste de ce qui était terne, mais qui était du passé. Comment vous interprétez ça ?
Mais exactement comme il le dit et comme vous le dites, c'est-à-dire, c'est génial son exemple, c'est de dire, en fait, c'est pas le bonheur dont on est nostalgique, c'est pas l'envie de retrouver le pays natal ou le bonheur de jadis, c'est le jadis tout court, c'est le passé. C'est cette antériorité qui n'est plus, qui ne sera plus jamais, sur laquelle on ne peut pas revenir deux fois, qui nous fait du mal, qui nous serre le cœur.
Mais comment vous interprétez ce qu'on a tous vécu, c'est qu'on réécrit de façon améliorative, c'est-à-dire qu'on enjolive rétroactivement. Il y a plein de choses qui deviennent des bons souvenirs, alors qu'en fait, c'était soit terne, soit carrément désagréable.
Ouais, c'est presque un phénomène de cristallisation du passé, d'illusion rétrospective. Parce que je crois que le temps est notre bien le plus précieux, et donc le fait de le voir passer, en être dépassé, nous donne envie rétroactivement d'enjoliver, de cristalliser. Et puis surtout, lorsque nous vivions un moment, on ne savait pas exactement à quel point il était heureux, parce qu'on ne sait pas, on était pris par l'inquiétude de l'avenir, l'incertitude si ce présent est vraiment bon. Et c'est une fois qu'il a été passé et qu'on voit qu'il a plutôt été sans entrave, sans difficulté majeure, sans drame, qu'on s'aperçoit qu'il était donc un bonheur assez pur, et c'est trop tard.
Mais alors ça veut dire, si on vous écoute et si on écoute Yankelevitch, qu'en fait on est nostalgique du passé pur, pas de ce qui a été vécu dans le passé qui serait plus ou moins bien, mais du passé lui-même.
Ouais, c'est pas le fond, c'est la forme, c'est la forme même du temps, c'est la temporalité pure qui nous laisse ce sentiment de nostalgie.
Mais pourquoi ? Au fond c'est bizarre.
Non, je crois que c'est parce que, encore une fois, le temps est peut-être le premier des biens. Avant même l'argent, je pense vraiment cela. Donc c'est un bien précieux et rare, d'autant plus quand on le voit filer et se réduire. Et puis je crois aussi que nous nous gâchons souvent le présent par l'inquiétude de l'avenir. Et donc c'est quand le présent apparaît comme un passé pleinement heureux, sans embâche, que nous le regrettons.
Ouais. Mais comment vous expliquez dans ce cas qu'on ait vraiment des mauvais souvenirs parfois ? Qu'est-ce qui fait la différence entre un mauvais souvenir qui va rester mauvais et un mauvais souvenir qui va devenir l'objet d'une nostalgie, finalement ?
Je pense que des moments où on s'est senti particulièrement dans l'inconfort, voire des moments de grande violence, ne sont pas des moments qu'on peut regretter ou sur lesquels on a envie de revenir. Ou alors, c'est parce qu'on a guéri d'une forme d'impuissance ou de sidération qu'on a envie rétroactivement, ça existe aussi dans le traumatisme, on a envie d'y revenir en ayant l'impression, en se donnant l'impression qu'on pourrait dévier la trajectoire, combattre l'agresseur, surmonter le moment. C'est un peu l'esprit d'escalier, mais alors d'une manière beaucoup plus radicale pour le traumatiser, c'est-à-dire quand il a guéri ou qu'il est passé par la résilience, presque par une forme d'orgueil, enrichi de sa nouvelle puissance, il se flagelle ou s'accuse de ne pas avoir été aussi puissant au moment passé. Mmh. Mais à part cela, on n'a pas envie de revenir dans le passé pour le défaire, surtout quand il a été inconfortable ou violent.
Alors, Sophie Galabru, je voudrais vous faire réagir à une phrase de Bergson que j'adore, que je vous ai entendu citer, et je ne savais pas que vous la connaissiez, parce qu'elle est très peu connue en vérité, cette phrase. Bergson dit en substance « Notre vie et ce chemin jonchés des débris de tout ce que nous commencions d'être, de nos projets avortés, de nos idées non suivies de conséquences ». Et j'adore cette idée que finalement, on est fait de tout ce qu'on a ébauché, mais pas poursuivi.
Oui, il dit même, enfin l'image qui me reste, c'est que notre chemin, enfin, vivre et vieillir, c'est avancer sur un chemin qui va être jonché sur les côtés de détritus, enfin de tous les déchets, de tout ce qu'on n'a pas. Soit des désirs avortés, soit à demi exaucés, soit des options qu'on a sacrifiées, parce qu'on ne peut pas tout faire dans sa vie, il y a des options, des possibles à choisir. Et donc, plus on avance, plus il y a des possibles sacrifiés. Ouais, j'adore cette idée. Et en même temps, Bergson, c'est un vitaliste et un optimiste pour qui la durée est une puissance de maturation et de créativité. Donc c'est pas se perdre et s'altérer.
La durée, expliquez pour les auditeurs.
Bah, la durée, c'est contrairement au temps, la durée, c'est c'est l'ensemble de ces moments vécus que l'on sent passer en soi et qui sont complètement compénétrés ou enchevêtrés comme une mélodie qu'on écoute. Ouais. On peut pas, ou ça serait très barbare, ou alors c'est quand on apprend le solfège, on apprend à jouer un morceau de piano. On peut pas découper ou partitionner de la musique. Tout est confondu, c'est-à-dire que le tout juste passé résonne encore dans la note présente qui annonce déjà l'avenir. C'est ça la durée. C'est un ensemble de qualités hétérogènes, dit Bergson, compénétrés ensemble, exactement comme une mélodie. Alors que le temps, c'est l'image spatialisée, c'est de la durée. Donc c'est la ligne que la frise chronologique que je trace sur un tableau et que je segmente comme si le temps c'était une ligne neutre, homogène, qu'on peut segmenter comme si toutes les parties du temps étaient égales, neutres, homogènes. Or pour Bergson, c'est absolument pas le cas. Les parties du temps ont des rythmes différents, des couleurs différentes, des tonalités complètement variées, donc incommensurables.
Mais donc si on simplifie pour les auditeurs et les auditrices, on est nostalgique que dans le temps. Mais quand on a compris ce que c'est que la durée, c'est-à-dire quand on a compris qu'en gros, que tout ce qu'on a vécu se ressaisit sans cesse en soi, dans cette espèce de chemin que vous avez très bien décrit, où tout s'en mêle, où toutes les temporalités s'entrelacent, et comme une grande mélodie qu'on continue à entendre, bah dans ce cas, il n'y a pas de nostalgie.
Non, c'est vrai. En fait, c'est des phénomènes de résonance et d'écho. C'est-à-dire que c'est le passé qui remonte et fait écho à mon présent, à mon avenir. Après, on peut... C'est justement quand on a une vision de la durée comme étant du temps, c'est-à-dire bien segmentée, bien où les parties avenir, avec présent, avant, passé maintenant sont bien séparées et qu'on souffre et qu'on a mal. Mais en réalité, quand on est plus spiritualiste, comme ouais, l'était Bergson, on sait très bien que ce qui a vécu, ce qui a résonné, comme la touche de piano sur laquelle on appuie, qui continue de vibrer même si son doigt ne touche plus la note, et les choses continuent de vibrer en nous, même au présent. Simplement, on ne les voit pas, c'est pas palpable, donc on a l'impression que ça a disparu, mais ça vibre toujours.
Et donc, on n'est pas nostalgique, parce qu'on sent le passé en soi.
Oui.
En fait, on a une autre proposition, là. Puisqu'ensemble, on se demande, oui, c'est le sous-titre de votre livre, hein, « Défier la nostalgie ». Le livre, c'est notre dernière fois chez Alary, édition. Eh bien, il y a une réponse, là. C'est que peut-être une façon de défier la nostalgie, c'est de sentir ce que Bergson appelle l'élan vital qui pulse à travers la vie, dans le passé, comme dans le présent, comme demain. Et à partir du moment où on se sent traversé par cet élan vital, comme au fond, c'est la vie elle-même, et c'était la même vie qui nous traversait hier et qui nous traverse encore maintenant, on n'a pas à être nostalgique du passé, parce que dans le passé, il y avait la même chose que dans le présent, à savoir l'énergie vitale.
Oui, absolument. C'est ce courant-là de vie et cette joie de vivre qui nous traverse. Alors bien sûr, parfois, on n'est pas toujours joyeux, mais quand on se reconnecte à cet élan, cette vitalité, on s'aperçoit qu'on a en réalité une grande force, une grande énergie, une grande vitalité. Oui, et elle nous traverse à chaque moment. Et tout ce qui a été vécu continue de vibrer en nous et se joue, se rejoue dans le présent et l'avenir.
Alors, ça pourrait sembler compliqué, ce qu'on vient de dire, mais en fait, c'est très simple. On peut le dire autrement. Ce qu'on est en train de dire, c'est que la vitalité est un remède à la nostalgie.
Oui.
Tout simplement, au fond.
Oui,
après, on a emballé cette vitalité du concept métaphysique bergsonien. Oubliez la métaphysique si ça vous fait peur. Juste quand on se sent vivant, quand on sent l'énergie de vie en soi, quand on a cette créativité existentielle, au fond, on n'est pas en proie à une nostalgie trop violente.
Non, et d'ailleurs, les lecteurs ou les gens que je vois dans des rencontres qui peuvent me dire « moi, je ne suis pas nostalgique », sont des gens souvent qui témoignent ou qui me témoignent une grande vitalité ou qui sont toujours penchés plutôt sur leur présent ou sont optimistes ou heureux d'aller vers l'avenir.
Exactement. Retenez bien ça, la vitalité est un des remèdes à la nostalgie. Yeah. C'était Parcells, You Got Me Feeling.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours sur France Inter avec Sophie Galabru. Nous parlons, chère Sophie, de votre dernier essai, nos dernières fois, justement, défier la nostalgie. Et on est parti un peu loin dans la métaphysique bergsonienne. On va redevenir plus concret. Est-ce que, grosso modo, vous pensez, vous, Sophie Galabru, qu'il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier?
Concrètement, non.
Voilà.
Voilà. J'ai cru pendant longtemps que c'était la meilleure façon d'avoir justement cette vitalité dont on parlait juste avant. Et effectivement, en un certain sens, quand on vit l'instant comme si c'était le dernier, ça peut créer une sorte de... ça peut gonfler artificiellement le moment, donner de l'intensité très facilement. Mais en réalité, c'est aussi une façon de vivre aux abois ou en sursis ou être otage du temps et de la notion de fin. Et donc, je crois qu'en réalité, il vaut mieux ne vivre aucun instant comme si c'était le dernier. C'est la plus sûre façon de s'installer dans la durée, d'en profiter, plutôt que de se sentir, je trouve, otage d'un budget temporel.
Voilà, et c'est très beau parce qu'on retrouve ce débat qu'on a évoqué tout à l'heure. D'un côté, Socrate, qui vit le dernier instant comme tous les autres. De l'autre, Jean-Louis Trintignant, dans le livre, vous le citez, il raconte ce côté un peu lyrique, un peu tragique. Beaucoup de gens de théâtre, d'ailleurs, pensent comme ça. Tu dois vivre chaque scène comme si c'était la dernière, être à fond dans l'affect, traversé par l'instant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du livre, il y a une sorte de dramaturgie. On a l'impression que c'est ce que vous allez défendre. Et finalement, vous revenez en arrière pour dire « Mais non, on ne peut pas vivre comme ça ». Et ça me fait penser à ces sages à qui on dit « Mais si vous allez mourir demain, qu'est-ce que vous faites ?» Et ils répondent « Mais je fais ce que j'ai toujours fait ». C'est-à-dire que si je suis cohérent avec ma vie, si j'aime ce que je fais, si je déploie mon humanité dans ma pratique, d'ailleurs c'est peut-être le but de l'existence, de trouver une activité dans laquelle on se déploie, au fond il n'y a rien à changer.
Oui, exactement. Je suis devenue complètement alignée avec cette vision-là. Je crois qu'en effet, quand on est aligné avec soi, avec ce qu'on fait, et qu'on est plutôt content de la vie qu'on mène, on n'a pas besoin de l'intensifier ou de la maximiser au seuil de sa fin, comme si en fait tout le reste n'avait été qu'une chose menée en dépit de soi-même. Non, enfin ça serait dramatique de penser comme ça, ou profondément pessimiste.
Mais toutefois, je me fais un peu l'avocat du diable, il y a quand même une bonne idée dans le fait de dire « attention, on gâche trop d'instants, on passe trop d'instants de sa vie coupés de la conscience de ce qu'on vit, en étant inattentif, et peut-être que le fait de venir apporter vers sa conscience l'idée que c'est peut-être le dernier instant, ça nous réveille quand même un peu. »
Ce que je dis, c'est que de temps à autre, se souvenir que les autres, notamment, pas que soi-même, mais soi-même aussi, avons une fin, c'est-à-dire une mort, ça peut donner une forme de... ça peut être un étalon d'évaluation de ce qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est assez authentique dans nos gestes, nos paroles, dans ce que... Oui. Mais si ça devient le compte à rebours pour compter ses écus temporels, je pense que ça devient une attitude assez dévitalisée ou morbide, ou décadente, dirait Nietzsche.
Alors, je le dis à tous nos auditeurs estivaux, ne comptez pas vos écus temporels, vous rappelle Sophie Galabru.
Oui, je trouve que c'est une façon en fait de vouloir, c'est comme lorsqu'on vous dit profite du moment.
Ouais.
Moi en fait dans le fond j'ai jamais compris l'expression parce que je sais pas comment tirer profit du moment ou des autres comme si ça dépendait uniquement de moi. Je pense qu'il y a une façon aussi d'accueillir ce que vous proposent les autres, les événements, c'est très compliqué, profiter. C'est en fait un terme assez comptable qui ne me dit pas grand-chose sur l'expérience sentimentale, temporelle qu'on peut avoir ou amicale, sentimentale.
Mais
comment on profite ?
En tout cas, on ne profite pas quand c'est un ordre. Voilà,
encore
déjà.
Moins.
Ouais.
Mais je trouve, c'est comme pour les vacances, la meilleure façon de gâcher ses vacances, c'est de se dire « il faut que j'en profite, il faut que je maximise, il faut que je remplisse ».
C'est le dernier jour des vacances.
Ouais, mais en fait, j'ai déjà pu vivre mes vacances comme si chaque jour était le dernier. Parce qu'en fait, on a tellement peur que les vacances prennent fin, qu'on est hanté par la notion de fin, et on veut à tout prix les rendre formidables. Et c'est une façon de passer à côté de son bien-être, de sa détente, je trouve.
Mais, et votre livre est très intéressant pour ça, parce qu'il est très nuancé, très délicat, vous l'avez aussi dit, c'est un point de repère, mais une manière de juger de son comportement intéressante aussi. Par exemple, si on est tenté de se mettre en colère contre un ami, un parent, et qu'on se dit, mais attention, c'est peut-être le dernier jour que je passe avec lui, on ne va pas se mettre en colère de la même façon, voire on ne va pas se mettre en colère du tout. Du coup, il y a une dialectique subtile, et au sein de laquelle je voudrais que vous donniez à nos auditeurs et auditrices un repère un peu plus simple. Dans quel cas est-ce que c'est bien de faire venir ce comptage temporel, et dans quel cas il vaut mieux s'en passer ?
Ben, ce que je dis, c'est que c'est un apercevoir la fin, se rappeler que les autres sont mortels, c'est intéressant de temps à autre pour évaluer la qualité de nos gestes. Ouais. Mais si c'est pour compter le temps qui nous reste et en avoir peur, c'est inutile, c'est peu bénéfique pour sa vitalité.
Ouais.
Après, vous venez me chercher sur le terrain de la colère et de la famille.
Bah oui.
C'est compliqué de prescrire une bonne ou une mauvaise colère. Moi, je pense que si l'émotion émerge, c'est qu'elle a lieu d'être et qu'elle est légitime. Maintenant, il y a une façon plus ou moins ratée de l'exprimer, ça c'est sûr. On peut se tromper de cible, on peut se tromper de moment, de la façon de l'exprimer. Est-ce que je trouve que ce serait un mauvais chantage ou un mécanisme de culpabilisation de dire aux auditeurs « Rappelez-vous que les gens sont mortels et ne vous mettez pas en colère. »
Non. Je sais pas, moi j'aime bien.
Moi j'aime pas trop.
En tout cas, n'oubliez pas.
Oui, mais à ce moment-là, ça désamorce toute colère, quoi. Et même la plus légitime et la plus fondée, parce qu'on est désemparé face à la disparition des êtres, leur vulnérabilité, parce que tout être est vulnérable, même le plus cruel, le plus pervers. Donc, si on se souvient un peu trop de cette vulnérabilité jusqu'à la mort, le fait que les autres sont mortels, on ne fait plus rien, je crois. Je pense qu'il faut de temps en temps aussi un peu l'oublier pour se soucier de soi.
Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que dans vos trois derniers livres, il y a ça, c'est-à-dire vous hésitez, vous balancez entre la vulnérabilité qu'on doit accueillir, accepter, et quelque chose d'assez ferme. C'est tout à fait votre philosophie qui est en train d'émerger. D'ailleurs, si je vous demandais, au fond, à quoi vous nous invitez dans ce livre, est-ce que c'est davantage à la vulnérabilité ou à la force ?
Vous avez raison, c'est une ambiguïté. Je ne sais pas si c'est une contradiction, mais c'est une ambiguïté, c'est-à-dire une ambivalence que j'ai. Oui.
Ouais.
Bah, à la fois, moi, c'est vrai que c'est parce que je porte une très grande attention à l'altérité, à sa vulnérabilité, que je ressens d'autant plus la nécessité aussi de s'en défendre. Parce que quand on est, comme le dit un très bel auteur, Emmanuel Lévinas, quand on est otage de l'autre, ce qui est le principe même de l'altruisme ou de la générosité ou de la responsabilité. On se déprend de soi, on ne mène plus sa vie, on ne mène plus sa barque, on ne cherche plus sa place au soleil. Et donc, il y a un équilibre difficile à tenir entre être soucieux de l'autre et ne pas sacrifier complètement sa vitalité. Ouais, pour moi, c'est important.
Et surtout que si on veut l'aider, il faut garder de la vitalité.
Oui, il faut être debout sur ses deux pieds, solide, avec une grande vitalité, une certaine force pour éventuellement donner ou s'amputer d'une part de cette force pour l'autre.
Parce qu'on sait qu'il y a certains aidants ont ce qu'on appelle un trouble vicariant, c'est-à-dire qu'à force de s'occuper des autres, ils sont eux-mêmes fragilisés par leur générosité et ce faisant, ils arrivent moins bien à aider.
Oui, j'en suis convaincue, bien sûr. Je pense que quand on est complètement vidé de son énergie et du souci de soi, je ne sais pas comment on peut se soucier de l'autre, enfin, ou alors c'est du pur sacrifice, de la sainteté, mais vient un moment où, comme le disait Bergson, il faut bien vivre, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi avoir un ressort pragmatique. On ne peut pas tout donner aux autres, ou alors on ne vit plus pour soi, et même pour donner aux autres, il faut quand même se recharger et vivre pour soi.
D'ailleurs, ça nous amène à une autre réponse à la question comment défier la nostalgie, c'est la transmission. Ce rapport à l'autre aussi. Puisque finalement, dans la nostalgie, on est obsédé par le passé qui n'est plus. Mmh. Et peut-être qu'une façon de dépasser cette crainte, c'est de penser à l'avenir et de transmettre vers l'avenir.
Oui, c'est vrai que alors si on pense au fait d'avoir des enfants et de leur transmettre, l'enfant peut être une façon, même si c'est un individu complètement à part, c'est une façon quand même un peu de rejouer son propre passé, son propre rapport à ses parents, de donner de soi, de transmettre pour l'avenir quand on ne sera plus. C'est l'immortalité à portée de main presque, hein, la fécondité, la progéniture, oui, d'une certaine façon.
Alors Sophie Galabru, vous êtes la petite fille de Michel Galabru.
Oui.
Vous avez été très proche de lui,
oui.
Il s'est beaucoup occupé de vous, vous avez été très complice. Alors est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où il vous a fait rire ?
Oui, parce que je crois que c'est un... C'est sans doute un message vocal, comme il en laissait parfois de 2 minutes jusqu'à ce que le répondeur ne puisse plus le prendre. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup parce que ces messages-là s'effacent, même si on veut les garder. Je rêve souvent de pouvoir réécouter ces messages vocaux. Je pense que j'en avais un en 2015-2016, juste avant qu'il parte, que j'ai toujours eu envie de réécouter, qui me faisait beaucoup rire. Mais c'était un être très drôle, ouais.
Même dans le privé.
Ah oui. Dans les 3 derniers mois durant lesquels il a souffert de sa maladie et par lesquels il est parti, il ne pouvait pas être drôle, il était émouvant. Mais je peux dire que presque jusqu'au bout, il a été très drôle.
Et ça nous amène à une autre réponse d'ailleurs, c'est la vie spirituelle. Ouais. Parce qu'au fond, si on sait ce que c'est que la spiritualité, il n'y a pas de dernière fois. Puisque les choses continuent à vivre dans l'esprit, dans la mémoire, dans une forme de présence, au fond.
Oui, c'est une thèse du livre, j'aurais pu l'intituler comme ça. D'ailleurs, nos dernières fois ne sont pas des fins, ou pas toujours, ouais. Ou très rarement.
Si on croit en quelque chose de spirituel.
En tout cas, même si on n'est pas croyant, c'est-à-dire même si on ne croit pas à une entité divine, il y a la réalité de l'esprit, tout de même, et de la mémoire, des sentiments. Donc, ce sont des choses invisibles, impalpables, mais qui existent bel et bien, même un athée pourrait le reconnaître. Donc, il y a des réalités spirituelles en ce sens-là.
Ouais. Comment vous définiriez ce qu'on pourrait dire, appeler une vie spirituelle ?
Mais c'est, pour moi, c'est vraiment au premier sens du terme, c'est la vie de l'esprit. Donc, tout ce qui touche à l'esprit, c'est-à-dire les pensées, les images, les sentiments, sont des réalités spirituelles.
Ça veut dire aussi peut-être que dans le rapport au réel, je sens que dans le réel, quelque chose excède le réel.
Oui, bah pour moi, ce qui excède le réel, en tout cas le réel matériel, c'est ces réalités de l'esprit. Ça excède... en tout cas, ça traverse le matériel, et voire ça l'excède.
Ça voudrait dire que vous n'êtes pas nostalgique de ces instants avec, par exemple, votre grand-père, Michel Galabru, parce que vous sentez quelque chose qui est encore là.
Oui, mais vous faites référence à la croyance, ce qui est toujours là.
Pas vraiment, non, je pensais juste que dans le souvenir, par exemple...
Oui, dans ce sens-là, ouais. Oui, c'est vrai, par le souvenir, la mémoire, des habitudes communes... effectivement, il y a toujours une persistance, oui, absolument.
C'était pour vous, Sophie Galabru, Dalida, Je veux mourir sur scène.
Merci.
Ça vous fait quoi ?
Mais j'adore Dalida.
Ça ne m'étonne pas, mais quand même, elle se la représente sa dernière fois. Elle y pense, quoi.
Oui, c'est vrai, dans cette chanson. Et d'ailleurs, elle va la provoquer, hein, puisqu'elle se suicide. C'est une façon de tenter, à mon avis, d'avoir une maîtrise sur l'immaîtrisable, qui est le temps, la notion de fin, le suicide.
Et à la fin du livre, enfin, il y a toute une grande partie du livre qui aborde les dernières fois sous un autre jour, notamment celui de la dépendance. D'ailleurs, ça touche aussi Dalida. Et parfois, le dépendant, sa volonté ne suffit pas. Mais il dit, c'est la dernière fois, je voudrais que ce soit la dernière fois. Et vous avez tout un passage là-dessus qui est très touchant.
Oui, j'en suis venue à me dire que c'est la meilleure façon de ne pas se défaire d'une addiction, de dire c'est la dernière. Enfin, moi, en tout cas, je sais que dès lors que j'ai dit ça, ça ne marche pas. Il y a une rechute inévitable où il y a un besoin de transgression qui naît. Parce que je crois que c'est qu'une raison. Hein. Je ne veux pas du tout réduire le phénomène de l'addiction à cette seule raison-là. Ouais. Mais le rapport comptable... peut donner, à mon avis, cette excitation de la transgression. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Gilles Deleuze, qui était alcoolique. Il dit, l'alcoolique cherche même pas le dernier verre, il cherche l'avant-dernier. Il passe son temps à compter, à comptabiliser, il est très au courant de ses doses ou de ce qu'il est en train de faire, et il cherche le seuil, l'avant-dernier verre, au-delà duquel il va s'effondrer, il ne pourra plus rien faire, mais cet avant-dernier, c'est le maximum, c'est l'apogée, l'apothéose de sa puissance ou de ce qu'il peut encore tenir. Et il le cherche. Et il le repousse sans arrêt.
Et donc, l'invitation qui est la vôtre, là, c'est de sortir de cette idée comptable. Et vous voulez dire à la fois que ce serait peut-être une manière de sortir de l'addiction d'ailleurs, mais aussi une manière de vivre plus spirituelle et plus douce.
Oui, c'est une façon de dire que ce rapport comptable est au cœur de l'addiction. Donc, à mon avis, si on veut désamorcer, désactiver l'addiction, il faut changer. Il ne faut pas être dans un rapport comptable, mais qualitatif à soi. D'ailleurs, c'est le plus souvent les thérapies pour traiter l'addiction vont plutôt en ce sens-là. C'est-à-dire, quel est le rapport à votre désir? Quel est le rapport que vous avez au plaisir, à la notion de bonheur, à l'estime de vous, à la confiance que vous avez en vous, en l'existence? C'est ce rapport qualitatif qui est à bouger pour se détourner d'une addiction. Ce n'est pas un rapport purement comptable ou le décret de la dose ou de la dernière.
Eh bien, je vais vous lire, Sophie Galabru, pour qu'on entende encore une fois la distance que vous prenez, heureusement, avec ce rapport comptable à l'existence. Donc c'est vers la fin du livre. « Ce pouvoir de la mort, écrivez-vous, Sophie Galabru, nous place au pied du mur. Elle nous réduit à n'être que de pauvres chiens fous, terrorisés par les coups de fusil, aux abois derrière le temps, obligés de lever la tête et de courir pour faire vite. » La vitalité, on la retrouve enfin, la vitalité consiste à dépasser l'expérience quantitative du temps pour rejoindre une relation qualitative. Il ne s'agit plus de nombrer les fois, les avant-dernières ou les dernières, ni de vivre comme si cette fois était l'ultime, mais de rapporter à l'instant parce que je désire profondément le joindre et l'investir. Lui dire oui encore et encore. Être à l'instant parce que précisément j'aime vivre et non parce que j'ai peur de le perdre. Nous n'avons qu'à vivre, nous n'avons que cela à faire. Merci Sophie Galabru.
Merci.
Très jolie conclusion qui me conduit directement vers le portrait que je vais faire de votre philosophie de la vie qu'on a entendu. Alors c'est très intéressant. Grave et léger, hésitation entre la gravité et la légèreté. Et puis aussi hésitation entre donner son assentiment à ce titre nos dernières fois ou alors tacler son propre titre. Une philosophie qui hésite entre la sagesse socratique de vivre la fin simplement comme on a toujours vécu et le lyrisme de Jean-Louis Trintignant un peu intense de dire vivez toutes les choses comme si c'était le dernier instant. Je dirais aussi une philosophie, d'un bergsonisme délicat, une attention à ce que c'est que la durée, c'est-à-dire non pas simplement le temps qu'on compte et dont on attend la dernière minute, mais la durée telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est subjectivement vécue, telle qu'elle est ressentie, je dirais pour finir, une philosophie de la mélodie personnelle. La mélodie personnelle, c'est la façon dont chacun ressaisit toute son histoire, tout son passé, dans sa personnalité présente, et alors il n'y a plus de nostalgie, puisque mon passé est en moi, présent, dans ce que je suis. Merci beaucoup, Sophie Galabru,
merci, de
nous avoir accompagnés ce matin. Sous le soleil de Platon, je recommande votre dernier livre, Nos dernières fois, chez Alary Éditions. Merci encore. Merci aussi à toute l'équipe qui a préparé cette émission, notamment Audrey Carme, Laura Dumez, Estelle Gap. Merci à Valentine Chedebois pour cette très bonne programmation musicale. Émission réalisée par Antoine Larcher. Merci Antoine. Avec à la technique, Guillaume Roux. Merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve Yasmine Ouglis pour Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Yasmine, on parle de quoi aujourd'hui ?
Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Alors ce matin, on lève le point dans Grand Bien Vous Fasse en s'intéressant au rôle difficile des belles-mères. Quand je dis belles-mères, vous pensez peut-être à la mère de votre conjoint. Eh bien non, ce matin, on va parler de la nouvelle femme du père, la marâtre.